L'actualité francophone avec RFI, avec Radio-Télévision Suisse, avec la RTBF, avec Radio-Canada et France Inter. Au programme aujourd'hui, on verra comment la Belgique a vécu l'onde de choc de l'affaire catalane. En Afrique, les premiers mouvements des forces anti-djihadistes G5 Sahel, notamment dans le Nord Mali. On verra aussi comment le Canada veut augmenter le nombre de ses migrants accueillis dans le pays. Et puis également des détectives en Suisse appelés à la rescousse pour faire la chasse aux fraudeurs sociaux. Enfin, en France, les légions d'honneur sont-elles toutes méritées? Non, répond le gouvernement français qui veut réformer les critères d'attribution. C'est l'actualité francophone. Bienvenue à tous. Pour RFI, la personnalité de la semaine, c'est François Compaoré, le frère cadet de l'ancien président burkinabé. Il a été arrêté à son arrivée en France dimanche dernier. François Compaoré doit être entendu dans le cadre de l'enquête sur l'assassinat en 98 du journaliste Norbert Zongo et de trois autres personnes retrouvées carbonisées dans une voiture. François Compaoré, c'est donc un homme de pouvoir, hein, Céline Pellerin.
Oui, au Burkina Faso, son surnom c'était le petit président. François Compaoré était au cœur du système, au point que beaucoup ont imaginé qu'il pourrait un jour succéder à son frère. Mais c'est aussi l'un des personnages les plus impopulaires des 27 années du régime Compaoré. Dans l'affaire Zongo, il est recherché pour incitation au meurtre. Cette affaire avait provoqué des manifestations massives de colère lors de l'insurrection de 2014. Il doit d'ailleurs fuir le pays grâce à l'armée française qui l'a emmené, lui et son frère, loin de Ouagadougou.
En Belgique, Nathalie De Vic, c'est l'ex-président catalan Carles Puigdemont qui a tenu les médias belges en haleine toute la semaine.
Tout le monde le cherchait lundi à Bruxelles à mesure que les rumeurs sur son exil belge se propageaient depuis l'Espagne. Il a fallu attendre mardi pour que le président déchu se décide à tenir une conférence de presse organisée dans la plus grande confusion, un local trop petit pour contenir toutes les caméras braquées sur lui en plein cœur du quartier européen. Bruxelles, capitale de l'Europe, vitrine de choix donc pour Carles Puigdemont pour défendre le dossier catalan, mais un visiteur bien encombrant diplomatiquement pour la Belgique qui n'en demandait pas tant.
En Suisse, Pierre-Henri Chauffat, votre ministre de la Défense, tente de gérer les bourdes de son département.
Oui, y compris celle qui date d'avant l'entrée en fonction de Guy Parmelin, et la dernière n'est pas piquée des verres. Des employés d'Arma Suisse qui gèrent l'armement destiné aux soldats se sont rendus sur un aérodrome situé dans la région du Golan en 2015 pour évaluer les drones israéliens que l'armée suisse voulait acheter. Sauf que notre pays n'a jamais reconnu l'annexion de ce territoire par l'État hébreu, d'où l'interdiction faite à ses représentants officiels de s'y rendre. Mais aucune malice du côté de la défense, Guy Parmelin n'a pu que laisser publier un communiqué troublant de sincérité. Personne ne s'est rendu compte que cet aérodrome se trouvait en territoire occupé.
Benoît Audet, votre personnalité de la semaine, c'est le président de l'Assemblée nationale du Québec.
Oui, Jacques Chagnon, il a livré un discours senti en réponse à l'arrestation d'un député la semaine dernière. Le député en question, Guy Ouellet, a été arrêté par une unité anticorruption sans que des accusations ne soient portées. Jacques Chagnon s'est porté à la défense en demandant aux policiers de l'accuser ou de présenter leurs excuses. Ce discours a été chaudement applaudi par les députés des deux côtés de la Chambre.
La personnalité de la semaine en France, c'est le président américain. Car même s'il n'a jamais eu très bonne réputation en France, Donald Trump fait désormais l'unanimité contre lui en France. C'est ce qui ressort du baromètre YouGov pour le Huffington Post français. L'image du président américain ne cesse de se dégrader, y compris parmi l'extrême droite française, qui était pourtant le seul parti français à lui donner un peu de crédit. Les Français reprochent à Donald Trump notamment d'avoir retiré les États-Unis des accords de Paris contre le réchauffement de la planète. Alors désormais, seulement 7% des Français disent avoir une opinion favorable, positive du milliardaire devenu président américain. La Belgique, donc, a du mal à garder la face sur la scène européenne. La Belgique qui n'en finit pas de subir l'onde de choc de l'affaire Puigdemont, Nathalie De Vic.
Oui, une Belgique qui peine à parler d'une seule voix au sein de son gouvernement. Cela s'est subitement enflammé dimanche dernier avec cette sortie surprenante dans la presse du secrétaire d'État à l'asile et la migration, Théo Franken, déclarant que Carles Puigdemont serait le bienvenu s'il demandait l'asile chez nous. Le nationaliste flamand NVA a même été jusqu'à émettre des doutes quant au caractère équitable d'un procès en Espagne contre son ami. Cette solidarité affichée entre indépendantistes a fait bondir le gouvernement espagnol. C'était la provocation de trop. L'Espagne a demandé une correction au Premier ministre Charles Michel, qui a donc dû appeler son turbulent partenaire de la majorité à modérer ses propos. La NVA, parti flamand aux velléités clairement séparatistes en Belgique, n'a jamais caché sa sympathie pour le combat des Catalans. Mais là, on a carrément frôlé la crise diplomatique.
Et d'autant, Nathalie, que ce n'était pas la première fois, le premier malaise en tout cas avec le gouvernement espagnol.
Effectivement, l'Espagne avait déjà très peu apprécié la position de notre Premier ministre lors de la manifestation pro-indépendantiste de Barcelone il y a 3 semaines. Charles Michel avait été quasiment le seul responsable européen à dénoncer officiellement la violence de la répression espagnole, appelant même les deux parties, au contraire, à dialoguer. Une position vue chez nous comme plutôt courageuse, mais qui avait fâché Mariano Rajoy. Le fait que la Belgique puisse ensuite héberger le président catalan destitué et à présent sous le coup d'un mandat d'arrêt n'a pu que rajouter de l'huile sur le feu.
En Afrique, la nouvelle force anti-djihadiste G5 Sahel a lancé cette semaine ses premières opérations conjointes aux confins du Mali, du Burkina Faso et du Niger. On rappelle que les groupes djihadistes liés à Al-Qaïda se sont emparés du Nord Mali en 2012. Et Céline Pellarin, c'est d'ailleurs dans le Nord Mali donc que ces soldats anti-djihadistes du G5 ont débuté leur mission.
Oui, des forces maliennes qui se sont déployées dans la commune de Tessit, près du Niger et du Burkina Faso, pour des missions de reconnaissance. La force conjointe du G5 doit atteindre d'ici mars 2018 sa pleine capacité de 5000 hommes, avec des bataillons venant du Mali, du Niger, de Mauritanie, du Burkina Faso et du Tchad. Des soldats qui ne se mélangeront pas à part quelques officiers de liaison.
Oui, mais Céline, le G5 Sahel n'est pas seul pour ses débuts sur le terrain.
Effectivement, la France est présente. Une centaine d'hommes de la force militaire française Barkhane se joint aux troupes africaines déployées au sol. Le président français Emmanuel Macron a d'ailleurs estimé que le succès du G5 Sahel était une obligation collective dans la lutte contre le terrorisme au sud du Sahara. Cette force G5 Sahel se veut complémentaire de Barkhane, mais également de la mission de l'ONU au Mali, la MINUSMA. Mais le G5 Sahel n'est pas sous mandat des Nations Unies. Les États-Unis s'y opposent à cause des obligations financières qui en résulteraient. À la place, Washington va directement financer le G5 Sahel avec plus de 50 millions d'euros.
Comment mieux démasquer les fraudeurs aux aides sociales? Eh bien, la Suisse a son idée. Pierre Anchoffa, la Suisse pourrait faire appel à des détectives?
Effectivement, le gouvernement veut toutefois cadrer ce type d'investigation car l'an dernier, la Cour européenne des droits de l'homme a épinglé la Suisse. Une sexagénaire avait obtenu une réparation de 8000 euros pour tort moral. Elle avait précisément été espionnée sur mandat de son assurance et les juges de Strasbourg ont rappelé à la Confédération que sa base légale était trop floue pour recourir à ces méthodes.
Et c'est donc ce cadre légal que les autorités suisses veulent définir pour pouvoir recourir à des détectives.
Exactement, car si les abus restent très minoritaires, les débusquer est essentiel pour la crédibilité des assurances sociales et donc leur ancrage dans la société. Patron des affaires sociales dans le canton de Genève, Mauro Poggia se réjouit de cette avancée.
Ces filatures existent dans les faits, il fallait quand même essayer de les cadrer un tant soit peu, parce qu'il s'agit quand même de trouver un juste équilibre entre le besoin de démasquer les fraudeurs et quand même la protection de la sphère privée des particuliers.
Et pour mieux protéger cette sphère privée, mieux vaudrait recourir à des employés de l'État plutôt qu'à des détectives privés. C'est la conviction de Sébastien Fanti, préposé valaisan à la protection des données.
Si vous aviez un employé d'un canton ou d'un service qui ferait les mêmes démarches d'investigation, vous auriez l'assurance que celui-ci notamment est assermenté, qu'il est soumis à un secret, comme le secret de fonction, ce qui n'est pas forcément toujours le cas dans le cadre de l'intervention de détectives privés. Donc les garanties pour les citoyens sont moindres.
Un point qui fera partie des garde-fous dont le Parlement doit encore débattre avant que les assurances reprennent ce type de filature pour prouver de potentiels abus.
Le Canada veut faire un effort supplémentaire pour accueillir plus d'immigrants. Le gouvernement fédéral a présenté cette semaine son plan d'immigration pour les prochaines années. Benoît Audet, l'objectif c'est donc d'accueillir plus d'immigrants d'ici 2020.
Oui, cette année le Canada accueillera 300 000 immigrants. Le Canada veut faire passer ce nombre à 310 000 en 2018, puis à 330 000 en 2019, pour finalement atteindre 340 000 en 2020. Ces seuils d'immigration annuels représentent environ 1% de la population du Canada qui atteignait un peu plus de 36 millions de personnes en 2016.
Alors cet objectif peut paraître ambitieux, mais le gouvernement le présente comme un plan nécessaire pour la bonne santé du pays.
Oui, la population canadienne vieillit, comme celle de la plupart des pays industrialisés. Le taux de natalité demeure bas, donc l'immigration est un peu le seul moyen de faire augmenter la population à court terme et ainsi d'assurer la croissance de l'économie. On recherche donc de la main-d'œuvre. Le gouvernement a d'ailleurs promis de mieux planifier l'accueil et l'intégration des immigrants, ce qu'il croit être en mesure de faire en présentant un plan étalé sur 3 ans plutôt que sur une seule année comme c'était le cas auparavant.
Alors donc des nouveaux objectifs qui peuvent sembler ambitieux, mais pour certains au Canada, Benoît, ce n'est toujours pas assez.
Oui, un comité avait recommandé d'accueillir 450 000 personnes par année au pays pour répondre aux besoins de l'économie. Le gouvernement croit que les nouvelles cibles sont plus en accord avec la capacité d'accueil et d'intégration du Canada. En terminant, pour ce qui est des réfugiés, après en avoir accueilli 60 000 en 2016, ce nombre sera revu à la baisse. On prévoit en accueillir 43 000 l'année prochaine.
Et parmi les débats de la semaine en France, question sur la Légion d'honneur créée par Bonaparte en 1802, la plus haute distinction française. Est-elle toujours méritée, cette Légion d'honneur? Un nouveau projet gouvernemental veut réduire considérablement le nombre de récipiendaires, avec comme seul critère désormais le mérite et l'honorabilité, pour en finir avec les renvois d'ascenseurs et autres considérations diplomatiques. Fini donc les attributions quasi automatiques de la Légion d'honneur aux anciens ministres, aux académiciens, aux militaires, aux ex-diplomates, des Légions d'honneur trop vite épinglées au revers des vestons, parfois de potentats étrangers. D'ailleurs, où était l'honneur quand la distinction fut remise à Bachar el-Assad en 2001 et en catimini au palais de l'Élysée? Mal attribuée d'ailleurs, cette Légion d'honneur française peut aussi être retirée, c'est ce qui est arrivé par exemple à l'ancien dictateur panaméen Manuel Noriega. Retirer la Légion d'honneur, la question est d'actualité en France, avec le cas Harvey Weinstein, le producteur américain englué dans des affaires d'agression sexuelle. Il avait été distingué en 2012 à Paris par le président Nicolas Sarkozy. Et bien 5 ans après, et à la demande d'Emmanuel Macron, la grande chancellerie qui gère l'attribution des médailles reconnaît qu'une procédure disciplinaire est en cours. Voilà donc pour ce tour d'horizon de l'actualité francophone. Merci aux contributeurs de Suisse, de RFI, du Canada, de la Belgique et de la France. Le prochain rendez-vous, ce sera la semaine prochaine, au même endroit et à la même heure.